Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Ici, sur cette place à Saint-Denis, nous voici postés à la fenêtre du temps long. Entre la basilique et l'hôtel de ville coule un millénaire. Depuis là, on peut voir loin, loin dans l'histoire. Il faut savoir regarder la France aussi comme ça, et son peuple. Car alors, son passé devient une expérience profitable pour le présent. Voyez la basilique. Notre pays s'est inventé ici même. Comment ? En édictant ses premiers principes politiques, comme par exemple, c'était à l'époque, quand il fut proclamé, la couronne n'appartient pas à celui qui la porte, comme nous dirions, la République n'appartient pas à celui qui la préside.
Pour son premier meeting de campagne électorale, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole place Victor Hugo entre l'hôtel de ville et la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois. Et pour ce début de campagne, le maire de la ville, Bali Bagayoko, a pris la parole de même que la prix Nobel de littérature Annie Ernaux. C'est la quatrième candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Un lancement de campagne du candidat de LFI qui intervient alors que le reste de la gauche est fortement divisé. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, LFI affirme que 26 000 personnes ont assisté au meeting de Saint-Denis, un rassemblement qui a eu lieu devant ce symbole qu'est la basilique où reposent les rois de France, dans une ville métissée et populaire, deuxième ville d'Île-de-France après Paris. Un meeting non pas dans une salle, comme pour ses adversaires, Gabriel Attal il y a quelques jours, ou Édouard Philippe le 5 juillet. Jean-Luc Mélenchon n'a pas choisi cette ville de Saint-Denis par hasard. On écoute d'abord le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui s'est exprimé en premier lors de ce meeting.
Saint-Denis est à la fois une terre de mémoire et une terre d'avenir. Une ville populaire, ouvrière, mais surtout une ville de combat. Ici, vous devez le savoir, vivent les mémoires de la résistance de celles et ceux qui ont combattu le racisme, le fascisme, l'occupation et la barbarie. N'oublions jamais les combattants venus d'ailleurs, républicains espagnols, résistants étrangers, travailleurs venus d'Afrique, du Maghreb et du monde entier. Quand la liberté était en danger, ils étaient là. L'histoire de France n'est pas faite contre l'immigration. Elle s'est faite avec. Avec les ouvriers, avec les travailleurs, celles et ceux qui ont construit ce pays. Et puis, il y a l'héritage du Conseil national de la Résistance. La sécurité sociale, les retraites, les services publics, les droits des travailleurs. Rien de tout cela n'est tombé du ciel. Tout est né du combat collectif. Mais Saint-Denis, c'est aussi le combat politique. Une ville antifasciste qui a toujours refusé la haine. Une ville qui a tourné le dos à l'horrible Jacques Doriot et la trahison du mouvement ivrier qui était vers le fascisme. Ici, on a su dire non. Non aux fascistes, non à la collaboration et non à la haine. Et cette ville, vous devez le savoir, fut aussi du côté de celles et ceux qui ont refusé la guerre d'Algérie, dénoncé la colonisation et défendu les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Henri Vernet, on vient d'entendre Bali Begayoko, le maire emblématique de Saint-Denis, élu en mars dernier. Vous avez regardé ce meeting. Qu'avez-vous pensé à la fois de la forme de ce meeting, un meeting en plein air, et puis les personnalités qui ont été choisies pour s'exprimer avant Jean-Luc Mélenchon?
Les gens qui étaient là, surtout, hein, parce que de ce meeting, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez rappelé, hein, quand même, quatrième candidature, 75 ans bientôt, donc il faut qu'il montre quelque chose, eh bien, il voulait en faire une démonstration de force. Indéniablement, cette démonstration de force, elle est réussie. Alors qu'il y a eu 26 000, comme le prétend LFI, 10 000 présents, comme l'avance d'autres, peu importe les chiffres, ça se situe évidemment entre les deux, mais démonstration de force parce que, ça aussi, vous l'avez remarqué, c'était en plein air, donc c'est quand même toujours un risque de mobiliser comme ça les militants, les sympathisants dans les rues. C'est jamais évident. Là, c'est réussi. Le premier rendez-vous est réussi. Je crois d'ailleurs que du côté de LFI, eux-mêmes se félicitent en faisant la comparaison avec la précédente campagne présidentielle où le premier meeting d'importance, d'une part, s'était tenu beaucoup plus tard, hein, dans le calendrier présidentiel. C'était en décembre 2021. Là, on est très tôt. Et surtout, il y avait moins de monde. C'était de l'ordre, il y a 5 ans, de 5 000, 6 000 participants. Là, évidemment, on est beaucoup plus. Et sur ce lieu extrêmement symbolique. Donc, de ce côté-là, cette espèce de rappel de l'histoire de France, et donc de faire la jonction, c'est ça aussi qui était frappant dans les paroles, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi à l'instant de Bali Bagayoko, cette manière de ne pas vraiment opposer, finalement, les lieux symboliques que sont la basilique, donc avec les tombeaux des rois des Érennes, et la mairie, donc prise par ce nouvel emblème des insoumis qu'est Bali Bagayoko, donc ce rappel de l'histoire, du temps long, bref, c'est vraiment, de ce côté-là, la démonstration de force, oui, elle est réussie, les prises de parole. Il y a également une autre chose à remarquer, je parle là de cette référence à l'histoire, qui est finalement pas si habituelle dans un tel meeting, de cette continuité, du temps long, comme l'a dit Mélenchon. Également les drapeaux qui étaient présents dans cette foule.
Beaucoup de drapeaux français.
Exactement, et ça a frappé beaucoup de monde, parce qu'on sait que c'est pas la tasse de thé, hein, ni de Mélenchon, ni de LFI de manière générale. Là, il y avait en effet beaucoup de drapeaux français. Alors certes, moins que les bannières LFI, hein, avec le fameux fil, la lettre grecque.
Quelques drapeaux palestiniens.
Et voilà, non, beaucoup de drapeaux palestiniens. Ça reste quand même la marque, j'allais dire, de fabrique, en tout cas, vraiment la marque d'engagement du moment des insoumis. Donc beaucoup de drapeaux palestiniens, des drapeaux LGBT. Hein. Là aussi, c'est une cause qui tient à cœur de ce mouvement, en tout cas, qui le met en avant. Donc ça aussi, ça participait de cette démonstration. C'est important un meeting, un premier meeting. On pourrait penser qu'à l'heure des réseaux sociaux, d'abord les campagnes se font là, et surtout comme quelqu'un qui en est vraiment un adepte, désormais aguerri, hein, Mélenchon, entre TikTok, ses hologrammes de la précédente campagne. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui sait jouer des réseaux sociaux. Mais un meeting, quel que soit le candidat, ça reste important. C'est vraiment une prise de candidature. Et sur les présents, oui, Annie Arnaud, c'est en quelque sorte, c'est le prix Nobel de la littérature. Hein. Il n'y en a pas tant que ça en France. Sauf erreur, il y en a deux vivants actuellement avec
Patrick Modiano et
exactement.
Jean-Marie Gustave Leclésio.
Oui, et donc évidemment, évidemment, elle vient apporter là le poids, j'allais dire, de l'intellectuel, de la littérature. C'est ce qu'aime bien cet ancrage-là.
Et c'est une femme très populaire, Annie Arnaud, qui est très populaire, notamment chez les militants et les filles.
Oui, c'est ça. Elle est très populaire à gauche, parce que c'est une écrivaine, donc une intellectuelle qui est résolument engagée à gauche et très à gauche, et dans une critique permanente et virulente de la droite et du macronisme, hein, du président actuel. Donc, mais malgré tout, c'est vrai que c'est une personnalité qui est là, et ça, c'est important. Il faut quand même remarquer qu'ils auraient espéré davantage. Alors, la campagne est longue, hein, ça viendra, mais LFI et la machine Mélenchon aimeraient quand même davantage de ralliement, ou en tout cas de soutien, de personnalités, d'artistes. À un moment, on avait parlé de Yannick Noah, pour l'instant, il n'en est rien. Ou alors d'influenceurs, ça aussi, c'est important. Hein. Des noms aussi, là, ont circulé, par exemple, ceux de l'influenceuse Léna Situation, la chanteuse Théodora. Bref, pour l'instant, tout cela n'est pas encore apparu. Ça peut très bien venir, hein. Je le répète, la campagne est longue. Mais disons que oui, ce côté démonstration de force, à l'évidence, était réussi.
La référence au temps long de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi une référence à François Mitterrand, qui est son modèle politique.
Oui, c'est son modèle, c'est même un peu son mentor. Hein. C'est sous François Mitterrand qu'il a éclos. Il a été élu, hein, sénateur, puis député européen. Il a été secrétaire d'État, alors c'était sous, et puis ministre délégué, ça c'était sous Lionel Jospin, donc pendant la cohabitation avec Chirac. Mais oui, François Mitterrand, à l'évidence, c'est un modèle qui est d'ailleurs revendiqué par Jean-Luc Mélenchon. Bah, c'est quand même la grande figure tutélaire de la gauche, hein, davantage que François Hollande. C'est le premier à avoir été élu. Accessoirement, François Mitterrand, c'est quelqu'un aussi à qui il a fallu plusieurs candidatures. Alors, trois. Et la troisième a été la bonne. Là, c'est vrai qu'on parle de la, on est dans la quatrième tentative pour Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, bien sûr que ce n'est pas un hasard. Et puis aussi ce côté littéraire. Hein, Mitterrand était l'homme du livre, l'homme du verbe. Donc oui, c'est un parrainage. C'est en effet une façon de se placer dans cette optique-là. Également, on se souvient peut-être du premier slogan de la première campagne de Mitterrand en 81, c'était « La force tranquille ». Mélenchon, hein, en quelque sorte, hier d'ailleurs dans ce meeting, il a tourner la page, enfin en tout cas tenter de tourner la page, on verra bien ce qu'il en sera avec les aléas hein, d'une campagne qui est toujours dure, mais de tourner la page du bruit et de la fureur. Là, il a parlé de la République qui n'appartient pas au président qui est la présidente actuellement. Il y a quelques années, c'était le tonitruant « La République, c'est moi hein, » que proférait Mélenchon face aux juges et policiers qui venaient de perquisitionner son parti. Donc oui, il y a cette idée vraiment, en effet, du temps long d'installer une force tranquille, alors, force tranquille à gauche.
Bali Bagayoko est devenue la personnalité la plus en vue de LFI depuis son élection à la mairie de Saint-Denis. Sa popularité est très utile aujourd'hui au candidat Jean-Luc Mélenchon.
Oui, elle est très importante. La sienne, c'est vrai que vous l'avez dit, hein, Bali Bagayoko, d'ailleurs maintenant on le voit beaucoup sur les plateaux. Il est passé du statut de quasi inconnu hein, en dehors de sa ville. Alors ça, c'est important. 150 000 habitants, c'est, vous l'avez dit, la deuxième ville, la première ville de banlieue en réalité, de banlieue parisienne. Donc ça, c'est quand même vraiment important. Néanmoins, aujourd'hui, Bali Bagayoko, il est demandé, il est quasiment tout le temps sur les plateaux des chaînes d'infos, et tant d'ailleurs comme maire, en tant que maire de Saint-Denis, que comme personnalité vraiment montante et s'imposant au sein de LFI, au sein des Insoumis. D'ailleurs, dans un reportage hein, tout récent, Le Parisien citait des habitants de la ville qui disaient « Bah oui, mais attendez, on l'a élu pour être maire, hein, pas pour être le Premier ministre de Mélenchon. » Donc forcément, il y a un gros intérêt autour de lui. C'est vrai qu'il symbolise totalement cette espèce de nouvelle France à laquelle tient beaucoup Mélenchon, qu'il théorise quasiment à chacune de ses interventions, de ses discours. Donc il y a cet aspect-là. Et par ailleurs, c'est aussi la jeunesse. Il faut remarquer, je l'ai dit, hein, 75 ans, je crois que c'est au mois d'août, pour un Jean-Luc Mélenchon, ce sera son âge pendant la campagne. Ça fait de lui le doyen des candidats à la présidentielle. C'est important d'avoir autour de lui, de toute façon, cette garde rapprochée qui symbolise à la fois le renouvellement et une certaine jeunesse à côté, donc, du doyen. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, c'est quand même cette machine, elle est vraiment en marche. Je parle de la machine de la candidature présidentielle insoumise. On voit bien que Mélenchon, il avance d'ailleurs des pions, il désigne des ministres, et donc dans cette espèce de garde comme ça, prétorienne, et qui est là pour faire la campagne, pour mener, pour animer cette campagne, il y a donc beaucoup de jeunes. On a vu
Louis Boyard animer le meeting,
exactement.
C'est lui qui a pris la parole et donné la parole.
Oui, parce qu'il est porte-parole des voix de la jeunesse. Il y a également une Manon Aubry, très, très importante dans le dispositif, la députée européenne, Clémence Guettet, qui s'affirme vraiment comme une des théoriciennes du mouvement, elle aussi jeune, en charge du programme, qui sortira d'ailleurs un livre très, très bientôt. Est-ce que d'ailleurs Mélenchon en sortira un? Ça, c'est un petit peu une énigme, mais en même temps, c'est quelqu'un qui écrit tout le temps. Bon, il est quand même probable qu'il nous prépare un livre pour l'automne. Et puis, il y a les cadres, disons, plus classiques qui seront là également comme des piliers solides à la fois de la campagne et éventuellement d'un futur gouvernement, si futur gouvernement il devait y avoir. Il faut remarquer... Et là, je pense à des Manuel Bompard. Hein. Bompard, c'est le coordinateur. En réalité, c'est le numéro un du parti, enfin du mouvement, plus exactement, puisque LFI est un mouvement et non pas un parti. Mais c'est vraiment l'homme clé. En plus, c'est lui qui a la connexion la plus directe avec le boss, avec le tribun, avec Mélenchon. Il y a également une Mathilde Panot, bien évidemment, Éric Coquerel qui est là pour l'économie. Mais disons que sinon, autour d'eux, ce sont vraiment des jeunes. Et c'était cette idée-là. Et autre signe de préparation, il y a désormais un comité, vous savez, de sages, d'experts, qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont une trentaine. C'est en gros, c'est le comité des Phrygiens, bon, évidemment, comme les bonnets phrygiens, et qui sont là, qui donnent du corps au programme économique, mais pas seulement, du candidat Mélenchon. Il y a également, il ne faut jamais oublier, ce sont eux, les Insoumis, qui ont l'institut... parmi vraiment les plus solides, le think tank, vous savez, tous les partis, enfin pas tous les partis, mais si, quasiment les partis importants en ont un.
L'Institut La Boétie, exactement, qui était l'ami de Montaigne.
Absolument. Et c'est un institut qui travaille et qui produit beaucoup de documents, qui sort des idées. Et ça, évidemment, tout ce que je viens de décrire là, bah, c'est vrai que c'est quand même la marque d'un parti qui prépare les choses depuis longtemps. Bon, de toute façon, on l'a dit, hein, quatrième candidature, mais qui, cette fois, a l'air d'y croire, en tout cas veut y croire, cette fois sera la bonne. C'est vrai que la dernière fois, il était troisième. En 2017, il était quatrième à la présidentielle au premier tour, mais disons de peu derrière François Fillon. Bon, il y a cette idée-là, et d'ailleurs lui-même a employé cette expression de « cette fois, les étoiles sont alignées ». Donc évidemment, c'est une campagne, c'est un meeting de lancement. Donc bien sûr, dans cette foule-là, on veut y croire.
Alors, on a évoqué tout à l'heure la prix Nobel de littérature Annie Ernaux. Elle a pris la parole devant une foule enthousiaste. Je vous propose de l'écouter.
Éloire, c'est celui qui a écrit le poème que tout le monde connaît. « Liberté, j'écris ton nom », écrit en 1942, quand la France était sous un joug ennemi et le régime honteux de la collaboration. Ces mots, je les mets en résonance avec ceux que vous venez de prononcer, Bali Bagayoko. Des mots, ces mots prononcés le soir de votre élection de maire dès le premier tour. Saint-Denis, la ville des rois et du peuple vivant. Une phrase d'une beauté et d'une vérité inouïe, à la fois politique et poétique. C'est une phrase qui fait droit au passé, à l'histoire enfouie dans les murs de la basilique et qui l'unit au présent, à aujourd'hui, au peuple vivant. Mais ce « et » qui l'unit, il oppose aussi, car le temps des rois, c'était celui des privilèges par la naissance. C'était celui des femmes, propriété absolue des hommes. C'était le siècle où Jean-Jacques Rousseau, né dans le peuple, écrivait « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Dire en 2026 le peuple vivant, c'est refuser une vision figée de la nation, c'est affirmer le visage présent de la France. Le visage présent de la France, de la nouvelle France, telle que les 60 dernières années l'ont façonné, dans une diversité qui fait sa richesse.
Alors, on a entendu Annie Ernaux reprendre à son compte le slogan de Jean-Luc Mélenchon, la Nouvelle France. Comment comprenez-vous cette expression ?
Elle a évolué, enfin le sens de l'expression a évolué. Juste un mot quand même pour Annie Ernaux, on en a parlé tout à l'heure, mais quand elle est intervenue, elle était drapée, elle était revêtue d'un châle, d'un keffieh palestinien. Donc là aussi quand même, c'est une façon de marquer que ça reste un combat différenciant chez LFI. Et même quand elle parle, alors elle aussi, beaucoup de références à l'histoire, ça on l'a vu, mais également quand elle parle de collaboration, évidemment en arrière-plan, il y a cette accusation un peu permanente d'une collaboration entre guillemets de complicité, de minimum de complaisance du gouvernement Macron vis-à-vis d'Israël.
Et justement, l'ambassadeur d'Israël en France a déclaré qu'il préférait n'importe qui à la présidence de la République plutôt que Jean-Luc Mélenchon.
Bien sûr, parce que pour eux, Mélenchon, quand je dis pour eux, c'est-à-dire pour Israël et donc pour son représentant, c'est l'antisémitisme, selon eux, hein, qui est porté vraiment sur le plan politique, et donc ça leur paraît dangereux. Néanmoins, cette déclaration, elle est tout à fait malvenue. Hein. Un ambassadeur, quel qu'il soit, quel que soit le pays qu'il représente, il n'a pas à s'ingérer, à se prononcer sur la scène politique intérieure française. Son homologue américain l'avait déjà fait il y a quelques mois. C'est vraiment une façon d'agir qui est assez désagréable de la part des diplomates qui ne sont pas là pour ça.
La Nouvelle-France.
Oui, alors la Nouvelle-France. Quand je disais qu'elle a évolué, en réalité, c'est vers 2018 hein, que Mélenchon nourrit et utilise ce concept-là. Et c'est vrai qu'à la base, il vise et il s'adresse très directement vraiment aux quartiers défavorisés, aux gens issus de l'immigration. C'est cela. Et même dans un assez récemment, quand il remet vraiment au goût du jour, en gros, cette année 2025-2026, cette formule, qui pourrait être un slogan d'ailleurs, hein, l'un des slogans de sa campagne, de Nouvelle-France, on est d'abord axé là-dessus. Mais il ne faut jamais oublier que Mélenchon, justement, son point faible, c'est qu'il... Alors, c'est à la fois son point fort, mais c'est qu'il est considéré comme très clivant. C'est un urticant, Jean-Luc Mélenchon, pour la classe politique de manière générale, et singulièrement pour la gauche, pour sa famille de gauche. C'est à la fois le pôle dominant, hein, jusqu'aux dernières élections, c'est quand même le point d'ancrage électoral de cette gauche, disons, nouveau Front populaire, c'est-à-dire de LFI jusqu'au PS, en passant par les Verts et les communistes. Mais clivant dans le sens où il impose son narratif et justement où il est dans une espèce de radicalité. Et c'est pour ça que... Et donc cette nouvelle France, bah, quand c'est vu comme OK, c'est une... finalement, ça a été souvent dépeint comme une forme de communautarisme et donc comme une forme de clientélisme sur le plan électoral. Et là, c'est vrai que désormais, il s'applique, et c'était également le cas à Saint-Denis, à élargir le concept. Et aujourd'hui, la nouvelle France, bah, finalement, c'est aussi le renouvellement des générations. D'ailleurs, c'est amusant hier d'avoir vu quand il a utilisé ce concept-là, la manière dont il s'est tourné vers les jeunes générations. Un confrère me faisait remarquer qu'il visait aussi sa fille qui était, et sa petite-fille qui était dans le public devant la basilique et la mairie de Saint-Denis. Donc c'est cette idée plus large. Également un élargissement des publics. Par exemple, là, on entendait Annie Arnaud, dans l'extrait que vous avez passé, faire allusion à la condition des femmes. Et bien justement, ça aussi, ça devient un des axes de la campagne à venir pour LFI, c'est-à-dire l'égalité des droits, enfin de traitement, de la vie, tout simplement, entre les femmes et les hommes, qui est une cause qui n'est jamais totalement achevée. Donc il y a ça. Il y a également le monde du travail. Enfin bref, la Nouvelle-France, c'est vraiment ce renouvellement permanent des générations et c'est cette idée d'essayer de faire France ensemble et non pas en s'opposant les uns les autres. Et en faisant ça, bah, qu'est-ce qu'il fait Jean-Luc Mélenchon ? Bah, de nouveau, il se place, il se positionne par rapport à l'adversaire principal qui, désormais, est le Rassemblement National, quel que soit son candidat, Jordan Bardella ou Marine Le Pen. On sera fixé de toute façon désormais dans moins d'un mois, hein, le 7 juillet, selon la décision de la justice en appel. Et donc, c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est une façon d'opposer cette nouvelle France au grand remplacement, tout en récupérant certains des termes, parce que, bah, grand remplacement, par exemple, Mélenchon lui-même avait utilisé ce terme alors, de manière assez ironique et pour railler l'extrême droite. Ça, c'était pas un combat municipal. Mais là, désormais, à Saint-Denis, on a tous été frappés d'entendre lui-même revendiquer le slogan « On est chez nous », c'est-à-dire cette nouvelle France, c'est-à-dire cette jeune France,
et
cette
la
France
foule
renouvelée.
Qui reprenait ce slogan.
Exactement. Et qu'il a repris avec un plaisir manifeste.
Alors que c'était un slogan qu'on entendait
bah, totalement
surtout
d'extrême droite, bien sûr. D'extrême droite ou souverainiste, voilà, RN et chez tous les souverainistes donc de droite et d'extrême droite.
Alors, je vous propose à présent d'écouter Jean-Luc Mélenchon parler de son programme.
10 millions de gens sont tombés dans la pauvreté. 7 millions sont contraints à l'aide alimentaire. Alors chacun doit dire maintenant dans son programme quelle est la priorité, ou bien les performances d'un système condamné, ou bien les besoins humains, et ce n'est pas du tout la même chose. Nous, Nous réparerons les dégâts. Le SMIC passera à 1 700 euros. Et nous créerons une sécurité sociale intégrale, gérée par ses cotisants. Le but reste l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, puis le retour à 60 ans.
Jean-Luc Mélenchon promet d'augmenter considérablement le SMIC, il veut revenir à la retraite à 60 ans. Ce sont des promesses qui peuvent l'aider à accéder au deuxième tour ?
Ah oui, parce que lui, il vise clairement l'électorat populaire. L'électorat, il l'a rappelé, hein, qui s'est senti, disons, marginalisé, oublié par Emmanuel Macron, donc la France des plus modestes, même si en réalité, dans cet électorat, on sait très bien qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup de cadres de la fonction publique, il n'y a pas vraiment que les quartiers populaires et, disons, les gens les plus défavorisés. Mais enfin, tout cela fait quand même une masse assez importante. Donc oui, c'est un électorat qui est sensible à ce genre de promesses. Alors, hein, on connaît la formule, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais si son programme économique, on voit hein, tel qu'il se décline, est quand même au retour à plus de solidarité économique, à davantage finalement de redistribution. Alors en même temps, augmenter le SMIC, ça veut dire faire peser cela sur les entreprises. Évidemment, il aura du mal à être réellement décisionnaire en la matière si il accède à l'Élysée. Mais enfin, c'est l'impulsion qu'il donnerait. Et oui, évidemment que ça parle à tout un électorat. En plus, un programme économique, c'est important quand même pour un parti comme celui-là, tout comme à l'opposition. Poser le RN, parce que ces formations-là souffrent chacune pour des raisons qui lui sont propres d'une espèce de déficit de crédibilité en matière de gestion, en matière d'économie. Donc il faut encadrer cela. C'est pour ça d'ailleurs que Mélenchon, aussi bien dans le meeting de Seine-Saint-Denis que dans ses différentes interventions, et je pense qu'il le précisera désormais, quand il parle de la retraite, en effet, il y a cette promesse de revenir à la retraite à 60 ans qui, rappelons-le, avait été instauré par François Mitterrand, qu'on avait cité tout à l'heure, en 1981. C'était l'une des grandes promesses de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. Mais ça, il précise bien que ce ne sera pas pour tout de suite. C'est-à-dire que si jamais il arrive au pouvoir, s'il est élu président de la République, il abrogera la réforme actuelle, donc la retraite reviendra à 62 ans, mais 60 ans étant un objectif à atteindre plus tard, donc une fois que ce serait possible. Donc il ne met pas totalement de côté une rationalité, une faisabilité économique.
Merci, c'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.